Chapitre 15. Conclusion de l'aventure précédente. Outre le soupçon que la pauvre sentinelle se fût livrée au sommeil, le lieutenant en concevait un plus fâcheux encore contre elle. C'était celui de trahison. Car, comme il ne croyait pas un mot de l'apparition, il imaginait que le tout était une invention qui n'avait d'autre but que de lui en imposer, et que la sentinelle avait, dans la vérité, été gagnée par Northerton pour le laisser échapper. Il s'arrêtait d'autant plus à cette idée que la frayeur lui paraissait la chose la moins naturelle dans un homme qui avait la réputation d'un grenadier aussi brave et aussi hardi qu'il en fut dans le régiment. Ayant été à plusieurs actions, ayant reçu plusieurs blessures, s'étant en un mot toujours conduit comme un bon et vaillant soldat. Afin que le lecteur ne conçoive pas cependant la moindre mauvaise opinion de cet homme, nous ne perdrons pas un moment pour le laver du crime qui lui est imputé. Monsieur Northerton, comme nous l'avons déjà observé, était extrêmement satisfait de la gloire que son action lui avait acquise. Il avait peut-être vu, entendu dire ou deviné, que l'envie est la compagne inséparable de la renommée. Non que je veuille insinuer ainsi qu'il eût, comme les païens, du penchant à croire à la déesse Némésis et à l'adorer, car je suis persuadé qu'il n'avait même jamais entendu prononcer son nom. Il était d'ailleurs d'un tempérament fort actif et avait une extrême répugnance à passer quelques quartiers d'hiver enfermés au château de Gloucester, pour lequel le juge de paix aurait pu à toute rigueur lui donner un billet de recommandation. Il ne pouvait pas non plus chasser tout à fait de son esprit quelques réflexions fâcheuses sur un certain édifice en bois, que je m'abstiens de nommer, pour me conformer à l'opinion générale, quoique les âmes dussent s'honorer plutôt que rougir d'un tel édifice, qui est, ou au moins pourrait être plus avantageux à la société, que presque tous les autres édifices publics. En un mot, sans chercher d'autres motifs de sa conduite, M. Northerton désirait partir ce soir-là, et il ne lui restait plus qu'à en imaginer le comment qui lui présentait quelques difficultés. Quoique ce jeune homme eût quelque chose de travers dans son moral, son physique était parfaitement droit. Il était robuste et bien fait. Son visage passait aussi pour beau aux yeux de presque toutes les femmes, car il était large et haut en couleur. Il avait d'ailleurs d'assez belles dents. Des charmes de cette nature ne manquèrent pas de faire impression sur notre hôtesse, qui n'avait pas peu de goût pour ce genre de beauté. Elle conçut en conséquence une véritable pitié pour le jeune homme, et ayant ouï dire que la blessure du volontaire allait mal, elle supposa que l'affaire de l'enseigne pourrait ne pas bien aller. Ayant donc obtenu la permission de lui faire une visite, et le trouvant d'une humeur très mélancolique, qu'elle augmenta encore en lui disant qu'il y avait peu d'espérance pour la vie du volontaire, elle commença à lui proposer à demi-mot quelques moyens d'évasion qu'il saisit avec avidité, et bientôt ils en vinrent à s'entendre parfaitement. Il fut à la fin convenu entre eux qu'à un certain signal, l'enseigne monterait par la cheminée qui communiquait à très peu de distance avec celle de la cuisine, par laquelle il pourrait très facilement descendre, et que pour sa sûreté, elle aurait soin d'en écarter tout le monde. Mais de peur que nos lecteurs, qui n'ont pas tous la même façon de penser, ne prennent cette occasion de condamner toute pitié et de la regarder comme une folie pernicieuse à la société, nous croyons convenable de rapporter ici une autre particularité qui aura pu influer sur la conduite de l'hôtesse. Le hasard voulut qu'à cette époque, l'enseigne possédât une somme de 50 livres sterling qui, à la vérité, appartenait à la compagnie, car le capitaine, ayant eu un démêlé avec son lieutenant, avait confié cet argent à l'enseigne qui avait jugé à propos de le déposer entre les mains de notre hôtesse, peut-être pour servir de caution qu'il reparaîtrait par la suite pour répondre à l'accusation intentée contre lui. Mais quelles que fussent les conditions, ce qu'il y a de plus certain, c'est que l'hôtesse avait l'argent et l'enseigne sa liberté. Le lecteur s'attend peut-être, d'après le caractère compatissant de cette excellente femme, qu'en voyant la pauvre sentinelle mise en prison pour un fait dont elle la savait innocente, elle parlerait sur le champ en sa faveur. Mais soit qu'elle eût épuisé toute sa compassion dans la circonstance dont nous venons de parler, soit que les faits de cet homme, quoique fort peu différents de ceux de l'enseigne, n'eussent pas le même pouvoir sur elle, ce que je me garderai bien de décider, loin de se faire l'avocat du nouveau prisonnier, Elle appuya encore sur son crime en présence de son officier, déclarant en levant les yeux et les mains au ciel qu'elle ne voudrait pas pour tout l'or du monde avoir pris la moindre part à l'évasion d'un meurtrier. La tranquillité s'était rétablie et la plupart des assistants étaient retournés à leur chambre. Mais l'hôtesse, soit par l'activité naturelle de son tempérament, soit par la crainte qu'on enlevât son argenterie, n'ayant aucun besoin de dormir, engagea les officiers qui devaient se mettre en marche dans moins d'une heure à boire avec elle un bol de punch. Jones était resté éveillé pendant tout ce temps et avait entendu une grande partie du bruit et du tumulte qui avait eu lieu. Il eut en ce moment quelque curiosité de savoir tout ce qui s'était passé. Il saisit donc sa sonnette qu'il tira au moins 20 fois, sans que personne lui répondît. Car notre hôtesse était d'une gaieté si bruyante au milieu de sa compagnie qu'on ne pouvait entendre autre chose que le tapage qu'elle faisait. Quant au garçon et à la fille qui étaient assis à côté l'un de l'autre dans la cuisine, car ni l'un ni l'autre n'avaient osé aller se coucher, plus ils entendaient la sonnette, plus ils étaient effrayés et avaient l'air d'être cloués à leur place. Enfin, pendant un heureux intervalle de babil, le bruit de la sonnette parvint aux oreilles de notre bonne hôtesse. Elle appela sur les champs ses domestiques, qui ne tardèrent pas à venir à ses ordres. « Joseph, dit la maîtresse, n'entendez-vous pas ce monsieur qui sonne? Pourquoi ne montez-vous donc pas ?»« Ce n'est pas mon affaire, répondit le garçon, de faire le service des chambres. C'est Betty qui en est chargée. » « Si vous le prenez par là, répondit la fille, ce n'est pas mon affaire de servir les messieurs. Il est vrai que cela m'est arrivé quelquefois, mais puisque cela tire à conséquence pour vous, que le diable vienne m'y chercher si je retourne jamais dans leur chambre. » La sonnette continuant à aller avec force, la maîtresse se mit en colère et jura que si le garçon ne montait sur le champ, elle le renverrait ce matin même. « Si vous me renvoyez, madame, dit-il, je ne saurais l'empêcher, mais je ne ferai pas le devoir d'un autre domestique. » Elle s'adressa alors à la fille et tâcha, par des moyens plus doux, d'en obtenir ce qu'elle voulait, mais ce fut en vain. Betty fut tout aussi inflexible que Joseph. Tous deux insistèrent sur ce que cela ne les regardait pas et déclarèrent positivement qu'ils ne le feraient point. Le lieutenant fit alors un grand éclat de rire et dit « Allons, je vais mettre fin à cette dispute. » Puis, se tournant vers les domestiques, il les loua de la résolution qu'ils avaient prise de ne pas céder ni l'un ni l'autre. « Mais je suis sûr, ajouta-t-il, que si l'un des deux consent à monter, l'autre l'accompagnera. » Ils acceptèrent sur le champ la proposition et se hâtèrent de monter en se tenant tendrement serrés l'un à côté de l'autre. Quand ils furent sortis, le lieutenant n'eut pas de peine à apaiser la colère de l'hôtesse en lui faisant remarquer le motif pour lequel ils se refusaient l'un et l'autre à aller seuls. Ils revinrent bientôt après et informèrent leur maîtresse que le monsieur qui était malade était si loin d'être mort qu'il parlait tout autant que s'il se portait bien, qu'il les avait chargés de présenter ses devoirs au capitaine et de le prier de lui accorder la faveur de venir le voir avant de se remettre en marche. Le lieutenant se rendit sur le champ à ses désirs, et s'asseyant auprès de son lit, lui rendit compte de la scène qui avait eu lieu un étage plus bas. Il finit en lui faisant part de l'intention où il était de faire un exemple de la sentinelle. Mais Jones lui raconta toute la vérité et le supplia avec chaleur de ne pas punir le pauvre soldat, qui, j'en suis sûr, dit-il, est aussi innocent de l'évasion de l'enseigne qu'il l'est de former aucun mensonge et de vouloir vous abuser. Le lieutenant, après avoir hésité quelques moments, lui répondit « Vous l'avez pleinement justifié d'une partie de l'accusation et il sera impossible de prouver l'autre, car il n'était pas la seule sentinelle. Mais j'imagine un excellent moyen de le punir de sa poltronnerie. Qui sait cependant quel effet la terreur peut produire dans une circonstance semblable. Et à dire vrai, il s'est toujours parfaitement conduit sur le champ de bataille. Allons, c'est une bonne chose, après tout, de voir quelques signes de religion dans ces gens-là. Je vous promets donc qu'il sera mis en liberté dès que nous serons en marche. Mais écoutez, voilà la générale qui bat. Mon cher enfant, embrassez-moi encore. Ne vous tourmentez pas, ne vous pressez pas. Souvenez-vous que la doctrine chrétienne consiste à savoir souffrir avec patience. et je vous garantis que vous serez bientôt à même de vous faire justice et de prendre une honorable vengeance du misérable qui vous a insulté. » Le lieutenant sortit alors, et Jones tâcha de prendre un peu de repos.